toutes et à tous, bienvenue pour Histoire de Savoir, un magazine de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Au micro et à la technique, Adeline Wickmans. Aujourd'hui, eh bien, nous allons mettre le cap sur le campus Erasme et nous allons y rencontrer Emma Holmberg. Emma Holmberg est chercheuse au CIPES, c'est le service d'information, promotion, éducation et santé. Et de quoi allons-nous parler avec elle? Eh bien, encore un bel acronyme, de l'enquête HBSC. C'est une enquête sur les comportements, le bien-être et la santé des jeunes. Une enquête, vous allez l'entendre, qui est renouvelée tous les 4 ans. Et bien là, on va plus particulièrement mettre le focus sur la dernière édition, qui était l'édition de 2022. Et notamment, parmi les choses qui ressortent de cette enquête, il y a l'augmentation de l'anxiété scolaire chez les jeunes. Mais là, je mets la charrue avant les bœufs. Donc, je vais lui laisser la parole tout de suite. Emma Holmberg, qui nous parle donc de la santé des jeunes et plus particulièrement leur santé mentale. Alors, on se voit aujourd'hui, Emma Holmberg, pour parler bien d'une recherche qui a été menée déjà il y a un petit temps, mais qui, je crains, n'a pas perdu de son actualité. C'était une recherche qui portait sur la santé mentale des jeunes. Alors, peut-être avant de se lancer dans le détail, on l'entend dans la presse très régulièrement, la santé mentale des jeunes ne va pas bien. Est-ce qu'on peut se contenter de ce constat-là, ou est-ce que, en fait, elle va vraiment très très mal, ou elle va moins mal que ce qu'on imagine?
Je dirais que c'est plus nuancé que ça. Donc, moi, je me base vraiment donc sur nos résultats qu'on a. Donc, on mène une enquête auprès des jeunes scolarisés en Wallonie et à Bruxelles, de la 5e primaire jusqu'à la fin du secondaire. On a tout un tas de questions sur leur bien-être et leur santé mentale. Et on voit que y a certaines choses où ça va. Ils sont quand même assez satisfaits vis-à-vis de leur vie. Ce sont aussi des indicateurs où on s'attend quand même à ce qu'ils soient un minimum en bonne santé et satisfaits de leur vie. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses où, par exemple, il y a plus d'un quart qui se sentent quand même un peu seuls. Il y a aussi une partie qui ont un bien-être un peu un moindre. Donc, je dirais que c'est plus nuancé. Il y a des indicateurs qui nous montrent qu'une partie des adolescents ne vont pas bien, mais voilà, c'est pas non plus, tout le monde n'est pas spécialement concerné, et on pourra en discuter. Il y a aussi des petites spécificités entre les grands groupes d'âge, les filles, les garçons, etc.
Alors, cette recherche, elle a démarré quand?
Alors, c'est une enquête qui existe depuis très longtemps en Belgique. C'est une enquête qu'on mène tous les 4 ans. Donc là, les résultats dont je vous parle là aujourd'hui sont datent de 2022. Et nous programmons notre prochaine enquête qui aura lieu en 2026. Et donc, l'atout de cette enquête, vraiment, c'est que vu que c'est fait tous les 4 ans, on peut vraiment voir à quel point les comportements évoluent au fil du temps. Et c'est là qu'on peut voir s'il y a des comportements qui se dégradent ou non. Et ce qui a été assez intéressant en 2022, c'est qu'elle est arrivée à un stade assez intéressant. Donc, quand on a collecté les données, on sortait un peu du Covid, entre guillemets, mais il y avait cette curiosité à savoir, qu'est-ce qui se passe? Et donc, on voit que pour certains indicateurs qu'on a, oui, ça se dégrade en 2022, mais ça se dégradait déjà avant. Je pense par exemple au stress scolaire. Ça, c'est quelque chose, en fait, on a des évolutions depuis bien longtemps, et on voit qu'en fait, le stress était en augmentation bien avant 2022, bien avant 2018. Et puis, il y a d'autres choses où, la satisfaction de la vie, donc voir s'ils sont, oui, satisfaits de leur vie, on a constaté une petite baisse en 2022. Donc là, ce sera à voir en 2026. Est-ce que cette baisse a perduré? Est-ce que ça s'est stabilisé? Pour un peu comprendre si c'est lié à la période ou si plutôt c'est... au-delà de la période Covid, quoi.
Mais alors, justement, si on remet le focus sur cette période-là, entre 2018 et 2022, les résultats étaient fort différents?
De nouveau, très nuancés. Certains aspects, oui. Et d'autres, comme j'ai dit, en fait, oui, il y a une dégradation, mais en fait, elle avait lieu bien avant. Donc, c'est pas... Je dirais que le Covid a pu mettre en avant... certaines problématiques, mais ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a beaucoup des problématiques en fait qui avaient déjà lieu avant le Covid, et c'est juste que oui, la période a fait que ça, les choses se sont ont été beaucoup plus mises en avant. Et d'ailleurs, on voit dans d'autres études et de la littérature que les choses se restabilisent. Donc il y a eu, c'est vrai, une hausse de tout ce qui est stress, anxiété, dépression pendant le Covid. Logique vu la situation, mais il semblerait que maintenant la situation se stabilise, ou en tout cas enfin les niveaux baissent, ou en tout cas chez les personnes qui avaient un niveau on va dire faible avant le Covid, il semblerait qu'ils arrivent à retourner en fait à ce niveau-là. Alors que par contre, les personnes qui avaient déjà un niveau assez élevé d'anxiété et de dépression, ça a augmenté pendant le Covid et ça reste quand même élevé. Donc il y a cette différenciation. Mais je dirais que pour ceux qui n'étaient pas concernés entre guillemets, ou qui n'avaient pas de gros soucis d'anxiété, dépression, stress ou de santé mentale, la plupart ont pu quand même en fait se résorber de la situation, si je peux dire ça comme ça.
Est-ce que ça veut dire que quand vous menez des enquêtes comme celle-là, puisque c'est réalisé tous les 4 ans, vous recroisez les mêmes jeunes qui donc il y a moyen de faire une sorte d'analyse ou de suivi plus personnalisé?
Très bonne question, justement. C'est important de préciser que cette enquête-ci, c'est une enquête transversale, donc c'est-à-dire qu'on mesure à un point donné. Et tous les 4 ans, ce sont des différents élèves. Donc c'est une enquête transversale répétée. Donc on ne suit pas le même élève au fur et à mesure. Donc c'est les voilà, les résultats sont quand même interprétés avec une certaine avec précaution, puisque donc on ne sait pas faire de lien, on va dire ce qu'on dit de cause à effet, mais ça nous donne un peu une idée de la situation. Et l'avantage de cette enquête HBSC qu'on mène, c'est que c'est une enquête qui est menée auprès de plus de 13 000 élèves. Donc et on tient compte, enfin on sélectionne un maximum d'écoles pour essayer de vraiment être représentatif de la population scolaire. Donc l'idée, c'est vraiment aussi d'avoir cette image globale de qu'est-ce qui se passe chez les jeunes, et avoir un suivi. Mais évidemment, malheureusement, on ne peut pas être confiant à 100% de dire que si ça baisse ou si ça augmente ou si ça baisse, c'est uniquement à cause de telle ou telle raison.
Alors, comment est-ce qu'on mène une enquête auprès de 13 000 élèves? On envoie 13 000 mails?
Oui. Non, donc c'est, on sélectionne les écoles. Donc, on a deux étapes. Donc, on contacte les écoles. Je pense qu'on en a plus de 300. Et après, une fois que les écoles ont accepté de participer, on sélectionne au hasard une classe par année scolaire. Et puis, du coup, on distribue par contre plus de 13 000 questionnaires. Donc, les 13 000 élèves, ça, c'est vraiment les questionnaires complétés avec des données utilisables, mais évidemment, on en a bien plus. Donc, ça demande beaucoup de travail. On est une assez grosse équipe pour gérer ça. Mais c'est intéressant, ça permet vraiment d'avoir des résultats qui, pour nous, notre objectif, c'est aussi de pouvoir faire remonter ces résultats aux politiques, mais aussi aux écoles, pour mettre en avant un peu les priorités pour la santé des jeunes.
Alors, vous disiez, c'est une enquête qui court depuis longtemps, renouvelée tous les 4 ans. Là, vous avez, à l'aube de l'édition de 2026, Vous possédez quoi comme manne d'informations? Il y a combien d'enquêtes déjà qui ont été réalisées? Qu'est-ce que ça vous permet d'analyser?
Alors, en Belgique francophone, cette enquête est menée depuis 1986 et en Flandre, c'est depuis 1993. Donc, on a un beau recul. Il y a certains indicateurs qu'on a depuis longtemps, d'autres sont introduits. Évidemment, les choses s'adaptent, on s'adapte au contexte, on s'adapte. Les réseaux sociaux, c'est pas ce que c'était avant, donc les questions évoluent, mais on a certains indicateurs qui sont vraiment là depuis bien longtemps, et donc c'est pour ça qu'on a vraiment des belles évolutions, et on peut aussi, voir réellement ce qui se passe.
C'est génial, en fait, que ce genre d'enquête soit menée depuis si longtemps.
Oui, et alors, en fait, c'est une enquête qui fait partie d'un contexte international. Donc, c'est une enquête qui est maintenant menée dans plus de 50 pays d'Europe, d'Asie centrale et au Canada. Et donc, au niveau international, donc, il y a cette envie de pouvoir suivre les comportements au fur et à mesure des enquêtes, mais aussi de pouvoir faire des comparaisons internationales. Donc nous, on a tous les pays limitrophes de la Belgique qui participent aussi, donc c'est intéressant. On peut aussi comparer nos résultats par rapport à la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Allemagne, et voir où se situent les jeunes belges francophones.
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de mettre en parallèle les résultats de cette enquête et des résultats PISA, par exemple?
Bonne question. Je sais qu'il y a des indicateurs qui sont communs. Et d'ailleurs, le réseau HBSC a des liens avec PISA, mais on a aussi chacun nos particularités. Et donc, oui, ce que j'ai pas précisé, c'est que l'enquête HBSC est aussi chapeautée par l'OMS. Donc, c'est aussi l'OMS qui gère ça. Nous, de notre côté, on fait pas trop le lien encore avec PISA. Mais je sais que d'autres pays qui participent à l'enquête HBSC font aussi l'enquête PISA et parfois, en fait, font un espèce de lien ou en tout cas lient parfois les enquêtes entre elles.
Alors si on regarde l'évolution, mais on va peut-être mettre le focus sur les dernières années. Vous me disiez en début d'interview, Emma Humberg, la santé mentale des jeunes est beaucoup plus nuancée que ce qu'on entend dans la presse aujourd'hui, où évidemment ce qu'on met en avant, ce sont les cas les plus dramatiques, le fait qu'il y ait peu d'accueil pour ceux qui sont vraiment en détresse, le fait que pour avoir un rendez-vous chez un thérapeute, ça dure un temps fou. Je suppose qu'il y a aussi des problèmes financiers là derrière, etc. Alors avant de rentrer dans ces détails-là, est-ce que malgré tout, on peut constater une détérioration dans l'ensemble du bien-être des jeunes aujourd'hui en 2025?
Question pas facile à répondre. À nouveau, je dirais ça dépend ce qu'on veut dire, enfin ce qu'on veut dire par bien-être et qu'est-ce qu'on mesure. De nouveau, c'est aussi parce que ce sont des concepts très larges, et donc oui, sur certains aspects, comme j'ai dit, il y a des choses qui se détériorent. Au niveau de nous, notre enquête, on n'a pas encore assez le recul pour pouvoir dire si réellement ça se détériore. C'est ce qu'on espère déjà avoir plus d'infos avec la prochaine. Mais comme j'ai dit, c'est vrai qu'il y a quand même quelques indicateurs où on se dit, tiens, là, ça pourrait être interpellant, notamment le bien-être ou tout ce qui est les symptômes psychosomatiques. Donc, c'est vraiment enfin, avoir des maux physiques, mais qui peuvent aussi être liés à la détresse psychologique. On voit quand même que il y a la moitié de notre échantillon qui ont quand même des symptômes psychosomatiques assez, enfin, fréquents, ce qu'on dit fréquents. Et donc oui, il y a certains aspects où ça pose question et on peut se dire, tiens, il y a des choses qui peuvent être améliorées, et il y a des aspects de leur sentimental et de leur bien-être où oui, clairement, il faut mettre en place des choses pour améliorer ça.
Comme quoi?
Ça, c'est la question. Donc, comme je dis, nous, on est vraiment à fournir les données, mais je pense qu'il y a plusieurs possibilités, que ce soit via les écoles. Il y a des acteurs de terrain aussi qui peuvent mettre en place des actions. Je pense qu'il n'y a pas que de la sensibilisation qui doit être faite. Il y a, c'est, on va dire, plusieurs aspects qui jouent. On l'a dit, il faut, en termes de... Il y a un premier pas plutôt de la prévention et de la promotion de la santé, et vraiment s'assurer que les jeunes... grandissent et se développent dans un environnement plutôt favorable à leur santé, à leur santé mentale, oui, encourageante. Il y a le contexte scolaire aussi, comme j'ai dit, là, nous on voit que le stress scolaire est en forte augmentation, la satisfaction scolaire qui baisse, surtout avec l'âge. Donc il y a aussi peut-être des marges de manœuvre au niveau du système scolaire, de voir, voilà, l'école a peut-être un rôle à jouer pour soutenir les élèves dans leur scolarité, dans leur bien-être. Évidemment, il y a l'aspect aussi, le cocon familial, le cocon, les amis. Donc ça aussi, on mesure aussi le soutien familial, le soutien des amis. À l'adolescence, les amis prennent une place très importante, et on sait que ça joue sur leur santé mentale. Voilà, s'ils sont en conflit, ça peut aussi entraîner plus de stress. Alors qu'avoir un soutien, ça peut les aider à faire face à des situations stressantes. Et puis en termes de traitement, oui, il faut des financements, il faut de la place, il faut les psys, des consultations. Donc je dirais que c'est... Il n'y a pas une solution miracle, c'est vraiment, je pense, un mélange de différents acteurs, et de différentes parties prenantes, et surtout de pas seulement se concentrer sur uniquement le traitement ou uniquement la prévention, mais que ça doit être un peu un continuum, une ligne du temps, on va dire, où chaque moment est pris en compte pour essayer de aussi, en fait, atteindre un maximum de jeunes qui soient... Enfin, en fonction du stade dans lequel ils se trouvent aussi au niveau de leur santé mentale et de leur bien-être.
Votre boulot ici au sein de l'école de santé publique de l'ULB, donc on est à Erasme, votre travail, c'est de rassembler des données. Ok? Vous me dites oui,
oui.
J'ai tout compris. Mais donc, ça veut dire faire une photographie à un moment donné. Ici, vous me disiez, tous les 4 ans, on refait la même enquête avec des variations dans certains types de questions, évidemment. Mais donc, c'est faire une photographie à un moment donné. Est-ce qu'il y a aussi un travail qui se fait sur ce qui change autour, et donc ce qui pourrait avoir une influence justement sur l'évolution du bien-être des jeunes, parce que la société change elle aussi.
Oui, c'est là où on est un peu limité. Nous, tout ce qu'on peut faire pour un peu tenir compte de ça, c'est dans les questions qu'on pose. Et donc, comme j'ai dit, on a tout un aspect sur le bien-être à l'école, le soutien familial, le contexte socio-économique familial, Donc, mais à nouveau, comme j'ai dit, vu que c'est du transversal, on peut voir une association, mais on peut pas connaître le sens. Donc, est-ce que, par exemple, j'ai parlé du contexte socio-économique, est-ce que c'est le contexte socio-économique qui va influencer la sentimentale ou vice-versa? En général, les associations, on dit, sont bidirectionnelles, c'est-à-dire elles vont dans les deux sens, c'est pas exclusivement l'un qui entraîne l'autre, mais souvent, voilà, c'est plus complexe que ça. Mais oui, tout à fait. La chose aussi qu'on fait, c'est vraiment d'être à jour au niveau des connaissances scientifiques, de la littérature. Et ça nous permet de, en tout cas, interpréter nos résultats et avoir des hypothèses qui, voilà, sont quand même limitées dans leur interprétation, vu qu'on n'a pas pour sûr le résultat. Mais avec nos résultats, il y a d'autres enquêtes qui sont faites et on peut aussi comparer nos résultats. Et en général, on retombe quand même souvent sur les mêmes constats, donc quand on avance certaines, enfin, on est assez sûr aussi de nous quand on avance nos hypothèses à ce niveau-là.
Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oublie-moi. J'ai rien demandé à personne, juste éteint mon téléphone et j'ai tracé. Maintenant ça fait tut, 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 tut quand vous m'appelez. Plus j'imaginais l'avenir et plus j'avais l'impression de voir le passé. Quand on peut que subir, des fois faut juste s'en aller. Goodbye. Adieu les vieux potes toxiques, j'me casse. Goodbye. Adieu mon pays, merci, goodbye. J'ai un enfant à élever, j'peux plus faire du sur place. J'ai plus de temps à perdre dans vos problèmes de base. Si vous me cherchez, j'suis ailleurs. J'suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Si vous me cherchez, j'suis ailleurs. J'suis loin, 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 loin de vous. Oublie-moi. Et je les entends déjà dire que je suis parti sans prévenir, je les ai lâchés. Dès qu'ils trouveront quelqu'un d'autre, un sûr qui rejetait la faute, ça va passer. En vrai, je les ai attendus toute ma vie, mais jamais rien n'a changé. Plus je voyais ce qu'ils devenaient, moi je voulais leur ressembler. Goodbye. Adieu les drames, les gossips, je me casse. Goodbye. Adieu les news dépressives, goodbye. J'ai une famille à aimer, faut que j'y perde de l'espace. Mon cœur est limité, je dois faire de la place. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Et je serai plus jamais seul, et j'aurai plus jamais peur. En fait, je vais juste devenir ce que je suis. J'ai toujours été ailleurs. Et je serai plus jamais seul, et j'aurai plus jamais peur. En fait, je vais juste devenir ce que je suis. J'ai toujours été ailleurs. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, loin.
Alors, si on met le focus, Emma Holmberg, sur ce que vous avez déjà évoqué à plusieurs reprises, c'est l'anxiété scolaire. Vous dites qu'elle est apparemment en augmentation. Je suppose que la question qui se pose, c'est pourquoi ? Et puis après, que peut-on faire ? Mais on va d'abord se concentrer sur le pourquoi. À partir de quel moment est-ce qu'on constate une augmentation de cette anxiété scolaire ? Et est-ce que dans vos analyses, vous pouvez peut-être pointer déjà certaines causes ? Parce qu'en fait, je dirais que l'école, contrairement à ce qu'on peut croire, est un endroit où les choses ne changent pas beaucoup. C'est un lieu à la fois de reproduction, autant dans les pratiques que de reproduction sociétale. Et donc, peut-être très naïvement, mais je me dis, si l'anxiété scolaire a évolué, c'est pas tellement que l'école a changé, c'est peut-être qu'il y a autre chose qui a changé et que l'école n'a pas suivi.
Très bonne question. Évidemment, c'est la première chose, on s'est posé la question de tiens, qu'est-ce qui se passe ? Donc l'analyse qu'on a faite récemment et qui est disponible sur notre site web, c'est une évolution entre 2010 et 2022. Donc on a quand même un recul de plus de 10 ans. Et on voit vraiment, c'est une augmentation linéaire et qui en fait a doublé, hein. Donc le stress scolaire a doublé entre 2010 et 2022. Plusieurs hypothèses, plusieurs idées. La charge de travail qui a peut-être augmenté, une attente aussi ou en tout cas ressentie de devoir aussi réussir. Savoir ce qu'ils vont faire après, cette incertitude face à la possibilité, l'avenir, les études. C'est assez marqué, je dirais, déjà les filles sont plus stressées que les garçons, et ce stress augmente avec le niveau scolaire. Donc au plus on monte dans les années scolaires, au plus le stress augmente. Et c'est aussi sûrement la charge de travail qui augmente, de devoir identifier ce qu'on veut faire, choisir un peu ses options, et surtout dans l'enseignement général. Ça, c'est où le stress est le plus élevé, et puis le plus faible plutôt en qualification professionnelle.
Ok. Mais pourtant, j'aurais peut-être tendance à dire qu'entre 2010 et 2022, je ne suis pas sûre que les exigences de l'école aient beaucoup changé. Donc pourquoi est-ce que tout d'un coup il est plus stressant, plus inquiétant d'être une fille dans l'enseignement général?
C'est peut-être pas forcément de l'école, mais peut-être de manière générale de la sphère familiale, de la société dans laquelle on est. C'est vrai que là on parle de 2010, mais même avant, semblerait que aller à l'université semble être quand même de plus en plus fréquent par rapport à avant, donc il y a c'est de nouveau, ce sont des questions qu'on se pose, à savoir est-ce que il y a plus cette pression de devoir performer, de devoir réussir. On le sait aussi le système belge, il faut réussir sinon double. Ça, c'est assez intéressant de voir avec les autres pays qui participent à l'enquête HBSC. Certains n'ont pas ce système de redoublement. D'ailleurs, les résultats internationaux sont aussi disponibles sur le site du HBC International, où on voit du coup les comparaisons entre les pays, et c'est assez intéressant de voir de comparer les pays où il y a ce système de redoublement par rapport à d'autres. Je dirais peut-être pas forcément les exigences des écoles, mais peut-être plus de manière générale, sphère familiale ou sphère on va dire sociétal vis-à-vis de l'école, mais à confirmer.
Est-ce que ça a été mis aussi en parallèle avec le développement des réseaux sociaux?
On n'a pas encore fait. On a des questions sur les réseaux sociaux et on a fait le parallèle avec d'autres indicateurs, mais pas avec le stress scolaire, je dois admettre. C'est quelque chose qu'on pourrait faire et pourrait regarder, évidemment, oui.
Parce que je me dis, les filles sont généralement plus sujettes à tout ce qui touche au tout ce qui est phénomène de harcèlement via les réseaux, enfin quoi que c'est en train de changer d'après ce que j'avais lu récemment, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus les seules victimes. Donc c'est pas changement dans un sens positif, mais je me dis peut-être qu'un mal-être scolaire peut être lié à une tension qui viendrait de là.
Il y a plusieurs aspects. On sait aussi que de manière générale, tout ce qui est lié au, enfin, santé mentale, bien-être, les filles rapportent plus. Et il y a un aspect où on pense qu'il y a, évidemment, c'est de nouveau les normes sociétales qui font que les filles sont peut-être plus à l'aise de, enfin voilà, l'aspect les garçons ne ressentent pas ou ne, les filles oui. Il y a aussi cette capacité à mieux identifier. Certains suggèrent qu'au niveau cognitif, le développement est peut-être un peu différent. Et donc voilà, les filles ont cette plus cette aisance facile à exprimer, et donc c'est souvent, enfin dans nos, on le voit systématiquement pour tous nos indicateurs santé mentale, bien-être à l'école, que les aspects on va dire défavorables sont plus souvent rapportés chez les filles, et tout ce qui est favorable est beaucoup plus présent, enfin rapporté chez les garçons. Oui, peut-être qu'elles ont cette sensation de pression qu'elles ressentent plus, mais je pense que c'est surtout en fait qu'elles l'expriment plus à ce stade-ci. Et en termes d'harcèlement, la différence est surtout aussi au type d'harcèlement, qui est très différent entre les, enfin très différent entre les filles et garçons. Il y a des études et, qui montrent quand même que chez les garçons, on va retrouver le harcèlement, ou en tout cas le harcèlement type violence physique va être
plus classique,
plus, oui, rapporté. Et chez les filles, c'est plus subtil, c'est plus c'est dans l'émotionnel, la communication. Donc voilà, après ça ne veut pas dire que l'un est pire que l'autre, mais c'est assez intéressant de voir que à ce niveau-là, les ça se différencie aussi. Mais ça revient aussi au fait que il y a des différences de sexe et de genre dans les relations en fait, hein, et la façon dont on aborde les relations. À nouveau, je pense qu'il y a un aspect lié au genre, mais je pense qu'il y a aussi un aspect très sociétal qui fait que voilà, on s'est un peu aussi engrainé en nous de comment on se comporte dans nos relations, et ce qui est plus ou moins considéré comme acceptable ou pas pour une fille ou pour un garçon, voilà.
Mais donc, ça c'est très intéressant, ça veut dire que bah, une fois que vous avez rassemblé les données, bah, quand il s'agit de les analyser, il faut aussi tenir compte de plein d'éléments extérieurs et de biais potentiels.
Oui, tout à fait. Donc, quand on fait des analyses, on veut regarder s'il y a un lien entre tel aspect et tel aspect. On essaye de tenir compte d'un maximum de facteurs. On a, voilà, l'âge, le sexe, etc. Mais évidemment, on ne peut pas tenir compte de tout, et il y aura toujours un biais. Mais c'est pour ça qu'on le dit quand on parle de nos résultats, c'est que ça donne, oui, ça donne une photographie, ça donne une idée, mais évidemment, voilà, c'est interprété avec un minimum de précautions, et de savoir que oui, il y a des biais, mais comme j'ai dit, la force de notre étude, c'est vraiment l'échantillon qui est vraiment représentatif de la population scolaire. Parce que du coup, on a que, vu que c'est une enquête qui est faite dans les écoles, ça nous permet quand même d'atteindre un grand nombre, mais par contre, on atteint que ceux qui vont à l'école. Ceux qui ne sont absents ce jour-là sont du coup, ont quand même... On peut penser à un profil un peu plus particulier. Ce sont ceux qui sont peut-être déjà en décrochage scolaire, qui sont peut-être déjà dans un bien-être moindre ou des soucis de santé mentale. Et donc, eux, malheureusement, on les loupe, quoi. Donc, ça aussi, c'est à tenir compte. Certes, on est représentatif, mais on a auprès de ceux qui, voilà, qui vont à l'école, et on rate cette petite population, mais qui a quand même des spécificités et qui, en fait... oui, pour bien faire, il faudrait faire limite peut-être une enquête plus spécifique aussi auprès de ces populations-là qui sont, comme j'ai dit, en décrochage scolaire ou autre, quoi.
Oui, et quand vous dites une petite population, c'est une population grandissante, parce que le phénomène de l'absentéisme et du décrochage scolaire est en augmentation dans toutes les écoles.
Oui, mais justement, on a des résultats sur l'absentéisme, mais je ne les ai plus en tête. Je pourrais regarder. Et on a suivi cette évolution. J'ai l'impression que nous, dans nos résultats, c'était resté assez stable. Mais à nouveau, on a ceux qui sont là. Mais on demande du coup à quel point ils sèchent les cours, etc. Mais c'est vrai que ça, c'est des aspects auxquels on pense quand on fait nos enquêtes, mais comme j'ai dit, il y a toujours certaines limitations aux enquêtes. Nous, vraiment, l'objectif principal ici, c'est d'aller voilà, dans les écoles et d'avoir l'échantillon le plus représentatif possible de la population scolaire des écoles francophones en Wallonie et à Bruxelles.
Voilà, c'est ici que se referme cette histoire de savoir. La suite de mon entretien avec Emma Holmberg, eh bien, ce sera pour jeudi ou vendredi prochain. Eh bien, d'ici là, portez-vous toutes et tous très bien. Au revoir. What?